Vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié? Vous avez besoin d'un accompagnement financier pour suivre une formation qui vous est nécessaire? Retrouvez toutes les informations utiles sur le site fafcea.com.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ah, vous êtes adoré le BCG. Je ne suis pas un BCBG, je ne serai jamais. Je dois faire le beauf de service parce que vous aimez que les beaufs. Je ne suis pas aimé, c'est pas grave.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
23h de l'After est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs évidemment. Daniel Riolo est là et les Drôles de l'âme sont là également. Est-ce qu'on peut remettre un petit jingle Drôles de l'âme là, qu'on ne s'est pas mis depuis longtemps? Voilà.
Ah mais tout le monde est là au grand complet alors que ça.
Julien Laurent arrive dans quelques minutes.
Ah,
c'est l'Angleterre, il y a toujours un décalage.
Il y a longtemps. Talère, mais elle est là. Johan Crochet également, salut Johan.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Aussi, bah, je ne savais pas qu'il y avait tout le monde.
Et Polo Breitner, salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Ah Polo, ça
fait quand on fait l'analyse des vacances, il fallait qu'on soit là pour avoir ton.
Polo, j'imagine, a passé le Rhin.
Bisto Bueno.
T'as passé le Rhin, non?
J'aurais bien voulu passer le Rhin, malheureusement, il y a une compagnie aérienne allemande qui m'a légèrement enquiquiné, je reste poli.
Ah, j'ai connu ça moi aussi.
C'est pas fiable les compagnies aériennes allemandes?
Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on nous vend le low cost, et on voit ce que c'est. Quoi. Voilà. Ah. Merci.
Et pourquoi tu aurais dû rester sur Lufthansa, non? Classique?
Justement.
Ah, d'accord. Ouais. Bien.
Ouais, c'est pour ça que moi je ne voyage qu'avec Air France. Hein. Parce que finalement, c'est pas si cher. Non mais.
Bon, très bien.
Pour mes vacances, je suis allé en Espagne avec Air France. Voilà.
Très bien.
Tu n'as plus d'expérience en tes vacances. Il n'y a plus de débriefing. Tu vas te poser le cul sur une plage.
J'ai pas pris le risque.
Depuis ta grosse boulette à tête,
ouais, c'est fini. Depuis, j'ai tellement peur de faire une grosse erreur que je fais du classique, j'ai mangé du jambon. J'ai mangé des anchois.
Fred, qu'est-ce que t'as vu pendant tes vacances? J'ai mangé du jambon.
C'est un gros événement. Non, mais t'imagines, mes vacances ont été tellement
aimées. Comment s'organise un peu de plage quand même?
Non, je fais que de la plage, j'ai lu. Dans le dernier livre de Géraldine Maillet. Très bien.
Ah, d'accord. Très bien.
Très bien.
Tant mieux.
Très bien. Et j'ai lu, j'ai pris le soleil et j'ai mangé du jambon et des anchois parce qu'il faut dire que depuis mon retour en France, je suis privé de bons jambons et de bons anchois.
Bien sûr.
Donc, je me fais thérapie pendant quelques semaines.
Alors, je vous propose d'attendre Julien Laurence pour parler de Cristiano Ronaldo, parce qu'il est concerné. Donc, on ouvrira le dossier. Mon cher Polo.
Casemiro, c'est chaud là.
On va surtout le refermer rapidement, je pense.
Oui, mais tout de même, il faut raconter ce qui se passe, même s'il peut se refermer vite fait. Démarrons par la Juve. Parce que tu voulais dire un mot.
C'est le moment important, ça.
Tu voulais dire un mot, alors d'autant qu'on a appris, alors là aussi, ça concerne un peu Julien, on a appris les exigences de Véronique Rabiot.
Je
démarre par ça, si vous permettez. Parce que donc. C'est la presse italienne qui a publié les chiffres aujourd'hui. Je les donne, Johan. Donc c'est la Gazzetta qui explique que Manchester a offert à Rabiot, bonus compris, 8 millions nets de salaire par an. Véronique Rabiot voulait 10. Donc voilà, Manchester, ils ont dit maintenant,
stop. Elle a vu les saisons de son fils à la Juve avant de demander ça.
Et donc il va rester Johan, ou tu penses
s'il n'abaisse pas ses exigences, évidemment qu'il va rester. Et puis surtout, c'est pas forcément un cas Rabiot, c'est que c'est un joueur qui est en fin de contrat dans un an, et c'est un cas qu'on a déjà vu partout ailleurs. C'est-à-dire que si on veut forcer un joueur à partir un an de la fin de son contrat, il demande des sommes énormes. Et il est en position de force. Le joueur qui arrive aujourd'hui à un an de la fin de son contrat, il est en énorme position de force. Et donc, c'est pas surprenant de voir la mère et agente d'Adrien Rabiot essayer de tirer le maximum en termes salarial, de prime à la signature, etc., des divers clubs intéressés. Il y a rien de surprenant là-dedans. Après, on peut toujours se dire que oui, vu ses performances ces derniers temps, c'est trop, etc. Mais il y a plein de joueurs pour qui c'est trop, ça c'est clair.
Alors toi, tu voulais nous expliquer pourquoi la Juve doit absolument gagner le Scudetto cette année.
Oui, forcément, parce qu'il y a déjà des éléments contextuels que je rappelle très très rapidement. C'est que ça fait deux ans que la Juve n'a pas gagné le championnat, qu'il l'avait gagné 9 fois consécutivement auparavant, que la Juve a terminé quatrième en 2021, qu'elle a accroché tant bien que mal le podium en 2022 après avoir longtemps craint de ne pas se qualifier en Ligue des Champions. Il y a aussi le fait que c'est l'histoire du sport. Il faut jamais trop sous-estimer l'orgueil des champions et des grands champions au titre individuel ou au titre collectif. Et ensuite, il faut simplement se pencher sur ce qui s'est passé cet été. Et je vais même remonter jusqu'à janvier 2022, donc janvier de cette année. La Juve a quand même dépensé 80 millions d'euros pour prendre le meilleur buteur de Serie A à ce moment-là. C'était Dusan Vlahovic, qui avait marqué 17 buts en 22 journées. Cet été, ils ont pris le meilleur défenseur de Serie A. C'est élu la saison passée, Gleison Bremer du Torino. Près de 50 millions d'euros.
Ils en attendent beaucoup, évidemment... ils sont emballés là.
Mais c'est un super défenseur. Après, oui. Super défenseur dans une équipe de Juric ultra agressive avec une défense à 3, ok. Passer dans une défense à 4 aux côtés de Bonucci, on a vu ce que ça a donné pour Matthijs de Ligt. Hein. Et disons que le défenseur qui joue aux côtés de Bonucci le défend pour deux. Et c'est vraiment pas simple. Donc on verra ce qui va se passer au niveau de Bremer. Mais en tout cas, en termes de choix, c'est un super défenseur. Très moderne aussi dans son approche du jeu et notamment dans l'intensité et agressivité. Et puis, ils ont recruté d'autres joueurs. Ils ont recruté Pogba, 29 ans, Di Maria, 34 ans, Kostic, 29 ans. Et quand vous recrutez des joueurs trentenaires ou quasi-trentenaires, avec ce palmarès-là et cette expérience-là, bah, c'est pas pour construire sur l'avenir. C'est pour gagner tout de suite. Lors du match contre Sassuolo lundi soir, il y avait 5 joueurs qui avaient plus de 31 ans, qui était titulaire, et encore il manquait Chesney qui était blessé. Donc potentiellement il y a 6 joueurs de plus de 31 ans qui peuvent être titulaires dans cette équipe de la Juve. Elle a construit clairement cette équipe un effectif pour gagner tout de suite, et on le sait avec Allegri.
Elle a construit un effectif pour gagner tout de suite si elle réussit. Alors c'est encore une fois, je le dis pour la Ligue 1, mais dans le football international ça fonctionne aussi parfois. Cette politique de ce que j'appelle les paris, puisque c'est la mode, c'est les paris sportifs, mais maintenant même les directeurs sportifs font des paris sur des joueurs. Donc si les paris sont réussis, parce que Pogba, ça me semble être un pari, Di Maria, semble être un pari,
Non, Di Maria,
des joueurs qui offrent peu de garanties quant à leurs conditions physiques, à leur motivation, puisque leur prime est passé depuis
longtemps. Di Maria, c'est dur de dire que c'est un pari quand même.
Moi, je pense que c'est pas un pari. Ouais.
D'ailleurs, le pauvre vient déjà de se blesser.
C'est ça.
Le prime de Di Maria est passé. La dernière saison a été compliquée au Paris Saint-Germain. C'est un joueur que j'ai adoré, qu'on a tous aimé. Il est quand même sur la fin. Est-ce qu'il en a encore dans les jambes pour offrir une belle saison à la Juve? C'est un point d'interrogation. C'est pour ça que je parle de pari. Mmh. En fait, le pari, on pourrait dire qu'il y a un point d'interrogation sur tous les joueurs. Mais par exemple, j'en sais rien, moi. Aujourd'hui, la Juve prenait Sadio Mané. On mettait pas de point d'interrogation. Après, ça peut ne pas marcher. Comme peut-être ça marchera pas au Bayern, j'en sais rien. Mais a priori, il n'y a pas de point d'interrogation. Quand tu prends un mec comme ça.
Là, je pense honnêtement, Daniel, que sur Di Maria, il y a pas vraiment de point d'interrogation. Et moi, je pense que aujourd'hui, je suis à peu près dans n'importe quel club, je prends Di Maria parce que même si c'est que pour un an et que je trouve qu'il a la bonne mentalité, qu'il fait encore beaucoup de différence.
Je sais pas. Peut-être t'as raison.
Autant Pogba, je le conçois. Autant Di Maria, honnêtement, pour moi, c'est pas vraiment un pari.
Je sais pas.
Mais en tout cas, ils ont mis beaucoup d'expérience et il faut se souvenir quand même que la Juve, Allegri en tête, Agnelli, pardon, en tête, avait initié avec Sarri et avec Pirlo un rajeunissement d'effectifs. Oui. C'est pour ça qu'ils ont fait venir des joueurs comme Locatelli, qu'ils ont fait venir un joueur comme Matthijs de Ligt, qu'ils avaient fait venir des joueurs comme McKennie au milieu de terrain, comme Arthur au milieu de terrain, comme Federico Chiesa. Bah, ça, c'était des joueurs qui étaient.
Pour jouer, ils l'ont fait venir pour de l'écriture comptable.
Avec Kalic, ouais, oui. C'est...
Mais en tout cas, c'était des joueurs qui avaient qui avaient 23 ans ou moins de 23 ans. Et en fait, avec Allegri, il l'a dit très rapidement quand il est arrivé. Lui, il a besoin de plus d'expérience. C'est pour ça qu'en début de saison, Chiesa et De Ligt n'étaient même pas des titulaires indiscutables avec Allegri, parce qu'il estimait qu'ils étaient jeunes, qu'ils avaient encore beaucoup à apprendre. Ça, c'est la vieille rengaine d'Allegri, pour qui, à partir de 25 ans, on commence à être tout juste jeune et mûr à jouer en Serie A. Mais en tout cas, ils ont fait un choix qui est clair et définitif en disant: et ben là, on va prendre de l'expérience. Et là, on veut gagner tout de suite. Allegri, il aime pas bosser avec des jeunes. Et ben, on veut lui prendre des joueurs d'expérience. Et là, le truc, c'est que lui, Allegri, il joue très gros parce que là, il aura pas d'excuses. Ils lui ont construit un effectif de vraiment de très bon niveau, avec des postes doublés à peu près partout. Même si on peut discuter encore sur les latéraux où il y a un petit souci pour moi. Mais là, c'est clair. C'est la Juve doit soit être champion, mais en tout cas être dans la course pour le titre jusqu'aux dernières minutes de la saison 2022-2023. Alors, plus aucune excuse.
J'en viens à ma question. Moi, je pense que ce qu'il y a parmi les problèmes de la Juve ces dernières années, j'en mettais toujours un en avant, on en parlait beaucoup, c'est le milieu de terrain. le moteur de l'équipe, et c'est ce qui avait fait la force de la dernière grande Juve, et quand t'avais Arturo Vidal, Pogba justement quand il était là, ou Pirlo évidemment, c'était le grand milieu de terrain. Là maintenant, avec quoi il s'apprête à démarrer la saison dans ce secteur de jeu?
Si part, ça dépend s'il part sur un 4-4-2 ou sur un 4-3-3. Si tu as Paredes qui arrive et que tu as Paredes, Locatelli, Zakaria, alors c'est pas Pirlo, Vidal.
Mais ça a plus d'allure que c'est l'année dernière ou l'année d'avant.
Et exactement. Et puis surtout, maintenant, t'as un secteur offensif où je suis d'accord avec toi que c'est le cœur du jeu et l'âme d'une équipe et le moteur d'une équipe, le milieu de terrain. Mais attention, quand t'as des joueurs offensifs qui sont capables de faire autant de différences individuelles, comme Vlahovic, comme Federico Chiesa, comme Angel Di Maria. Attention, c'est là on est.
Chiesa,
on parle
le problème,
de...
c'est qu'on n'a pas de date de retour. Hein.
Pour qui?
Chiesa.
Ah, Chiesa, bah en fait là il est en soi, il peut jouer quelques minutes. Allegri dit qu'il sera pas à plein niveau avant, enfin à plein régime avant le mois de janvier. On peut estimer que octobre-novembre on devrait voir quand même quelque chose. Et j'ai oublié là pour le milieu de terrain, j'ai dit Locatelli, Paredes, Zakaria. Quand Pogba sera de retour, ça sera plutôt Paredes, Locatelli, Pogba.
23h13, dans quelques instants, le retour.
Il
faudra qu'on parle de vos clubs en Europa League et en Conference League. J'ai vu que Cologne, par exemple, Polo a réussi à perdre ce soir. Et comme quoi, il n'y a pas que les clubs français qui.
Match catastrophe et non pas match catastrophique.
Et très bien, on en parle dans quelques instants.
Oui, mais on peut toujours essayer de se rassurer en voyant que les autres peuvent faire des boulettes. Mais la dernière Europa League a été gagnée par un club allemand.
Tout à fait. Dans quelques instants, on fait ce point-là. Et puis, Julien Laurence va nous rejoindre. Il y aura le Barça également au programme ce soir et tout le reste de l'actu jusqu'à minuit. Les drôles de l'âme sont là. Le 32-16 est ouvert si vous voulez leur poser des questions.
RMC. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Les grandes dames sont là avec Daniel Riolo jusqu'à minuit, c'est l'after, bien sûr. Julien Laurence dans quelques minutes avec nous. Oui, donc un mot des matchs d'Europa League et de Conference League du soir, Polo. Donc tu avais effectivement Cologne. Bon, Cologne, c'est quand même un club.
Scénario.
Club historique du foot allemand.
Mais un club qui ces dernières années nous a fait rêver en Coupe d'Europe.
En Conference League en plus, bon, c'est pas la.
Non, mais attends.
Ils ont perdu contre les Hongrois de Fervar, l'ancien Vidéoton.
Voilà, l'ancien Vidéoton, tout à fait. Extraordinaire dans le sens où le premier quart d'heure, si tu veux, tu as Cologne qui a le pied sur le ballon, on voit pas l'équipe hongroise. Cologne ouvre le score normalement. À la 20e minute, il trouve le moyen de se faire expulser son défenseur Chabot. Donc il se retrouve en difficulté d'un seul coup. Oui, Chabot. Et qui a joué en
c'est génial ce nom.
Et d'ailleurs, ils ont mis 25 minutes à 100 mètres, le temps d'être mené 2-1 à la mi-temps.
Il court vite, Chabot ?
D'accord.
Oh, pardon, okay. j'ai obligé.
Ok. Et donc ils sont menés 2-1 à la mi-temps, au passage deux poteaux rentrants, tu vois, c'est un peu galère. Et en deuxième mi-temps, à 10 contre 11, Cologne a dominé toute la seconde mi-temps. Les autres, ils s'étaient regroupés à 11 dans leur surface et ils n'ont pas réussi à marquer. Donc le match retour va être évidemment compliqué en Hongrie. Mais voilà, ça arrive.
Très bien. À une lettre près, Chabot aurait fait autre chose, mais Chabot est plus dur à porter. Bon, je pensais une autre lettre, moi. Bon, je vous laisse réfléchir.
Moi, j'ai pensé à Chabot.
Villarreal.
Villarreal a joué également ce soir.
La Juve Split. Vous vous souvenez, quand on était petit, la Juve Split, c'était un grand club.
Bah, c'est le deuxième grand club croate avec Dinamo Zagreb.
La Juve Split. Donc 4-2, Villarreal, très bien. Ils ont récupéré le papy de Levante, 35 ans, Rosolis Morales, ce soir, sur les 4 buts. 2 buts, une passe décisive. Très bon transfert.
Très bien. Et puis la Fiorentina en Italie, Johan.
Ouais, très bien, avec un adversaire pas simple, hein, le FC Twente, le club d'Enschede aux Pays-Bas. Et honnêtement, ils ont fait vraiment un bon match, à l'image de ce qu'ils font d'habitude avec Italiano. Ils gagnent 2-1 et honnêtement, c'est bien payé pour le club néerlandais parce qu'il y a un tir cadré et un but. Et sinon, il y a une très très grosse domination avec encore un très beau Nico Gonzalez que connaît bien l'ami Polo, saute-t-il aussi devant, au milieu de terrain, ça a été bien. Donc non, c'est un bon match, mais 2-1, c'est pas un génial résultat à domicile.
Oui, mais est-ce que ces clubs-là ont quelque chose à faire de la Conference League? Parce que c'est là, on parle de barrage de Conference League.
Si aujourd'hui t'es la Fiorentina et que tu as vu ce qui s'est passé l'année avec la Roma et que tu te dis que t'en as rien à faire, je pense qu'il y a un vrai problème.
Pour les clubs allemands, compte tenu de la situation financière post-Covid, je peux t'assurer que c'est super important de jouer l'Europa Conference League. Parce que si ma mémoire ne me fait pas défaut, t'as 3 millions, tu gagnes 3 millions d'un seul coup quand tu te qualifies pour les phases de groupe, et chaque match gagné, c'est 500 000 euros en plus. Je peux t'assurer qu'en ce moment, c'est super important pour les clubs européens.
Pour te donner une idée, Polo, la Roma, l'année dernière, en gagnant la Conference League, gagnait un peu plus de 20 millions d'euros hors ticketing.
Ouais.
Et pour Villarreal, je vous rappelle que Villarreal a gagné la Ligue Europa, pas cette saison, mais la saison d'avant. Mmh. Qui, là, le fait de faire demi-finaliste de la Ligue des Champions, ils ont quand même laissé des plumes. C'est très beau pour l'image.
Tu passes après... demi-finaliste de Ligue des Champions, barragiste de conférence.
Oui, parce que en Liga, ils ont été moins performants, mais ils font une saison tellement magnifique en Ligue des Champions. On va quand même pas les blâmer, que pour eux, pour moi, aujourd'hui, Villarreal est le grand favori de cette Conference League.
Donc on a un entraîneur qui s'appelle Italiano à la Fiorentina et un entraîneur qui s'appelle Tedesco en Allemagne.
Ouais,
c'est Tedesco qui veut dire allemand en italien.
C'est ça, exactement.
Bref, bon, faut aller l'inventer. Tu voulais parler des autres clubs allemands en Coupe d'Europe, Polo, je crois.
Cette année, c'est marrant, je pensais pas avoir autant raison que ça. C'est parce que Cologne est quand même proche de prendre la porte. Il va vraiment falloir maintenant, avec le fait qu'il y ait plus de, va falloir marquer deux buts d'écart ou l'emporter au penalty en Hongrie. Même si sur la configuration de ce soir, Cologne est supérieure à l'équipe hongroise, il va falloir le faire. C'est quand même surprenant d'avoir et Fribourg et l'Union de Berlin en Europa League. Mais ça, c'est aussi la faute l'année dernière à l'absence de Mönchengladbach en championnat, à l'absence de Wolfsburg, à l'absence d'Offenheim, à l'absence de Francfort qui eux ont gagné évidemment l'Europa League mais qui n'étaient pas là. Ça a ouvert des places à des équipes théoriquement de deuxième ou troisième partie de tableau, puisqu'en Allemagne il y a 18 clubs et non pas 20, donc deuxième partie de tableau ça ne veut pas dire grand chose. Voilà, donc ça va ouvrir, si tu veux, on ne sait pas trop où ça va aller. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de points UEFA gagnés en Europa League, voire en Europa Conference League si Cologne se qualifie, ou en tout cas il faudra attendre la deuxième partie de saison.
Juste sur Villarreal, Fred, Cavani s'approche.
Alors,
il y a Fugénis.
Non, mais Cavani est en contact. Il y a Valence qui est sur le coup aussi. Il y a Valence qui est sur le coup, mais il semblerait que ces dernières heures, Villarreal prenne l'avantage, parce que Villarreal peut l'inscrire. Vous savez, toujours ce fameux plafond de la Liga, de plafond des salaires. Ils sont en train de faire un peu de ménage et Villarreal est bien bien placé pour accueillir, ce qui serait super. Franchement, Cavani, Villarreal avec Emery.
Ils avaient une très belle relation tous les deux.
Ouais, bah donc Emery, tu vois, donc là, parce que Villarreal, vous avez vu, c'est une équipe qui joue très bien en foot, etc. Mais ils avaient parfois des problèmes pour concrétiser des occasions. Donc un tueur comme ça, avec l'animation offensive qu'il y a dans cette équipe, ça peut faire mal. Bon. Moi, je pense que Villarreal a vraiment un truc à dire en Liga cette saison. À partir du moment où tu joues pas la
genre
Conference
League, dans les quatre premiers.
Oui, parce que comme tu joues pas la Conference League, tu joues pas la Ligue des Champions, tu joues que la Conference League.
Ouais.
Ça va. Enfin, je veux dire, tu vas pouvoir jouer les deux compétitions et ça va se sentir en Liga.
Bon, très bien. J'aimerais qu'avant que Julien arrive, et parce qu'on a des gros dossiers avec Julien, Casemiro, là, Fred est concerné, Cristiano, là, c'est Polo qui est concerné. J'aimerais bien qu'on parle un peu de Mourinho et de la Roma, parce qu'on l'a pas trop fait. Johan, comment tu les sens cette année-là?
En fait, il y a un vrai débat en Italie là depuis que la Roma a fait un recrutement assez ambitieux et notamment évidemment avec Dybala et Wijnaldum. En fait, il y a deux sons de cloche. Il y a ceux qui estiment que ces arrivées-là doivent permettre, et aussi le fait d'avoir gagné évidemment la Conference League l'année passée et l'expérience qui découle de ce trophée-là doivent permettre à la Roma de jouer le titre. Et puis il y a les autres, ceux qui expliquent que c'est encore trop juste par rapport à des effectifs comme ceux de la Juve, de l'Inter, du Milan. Milan qui a en plus maintenant toute la confiance accumulée grâce au Scudetto gagné. Et par exemple, juste pour donner un peu la température, Carlo Ancelotti qui a fait une interview dans la Gazzetta il y a quelques jours, lui disait non, pour la Roma c'est encore trop tôt, et je suis très aligné sur ce que disait Carlo Ancelotti sur la grille de départ comme on le fait en Italie au début de la saison, grille type Formule 1 après les qualifs. Moi il y a Juve, Inter, Milan devant et ensuite éventuellement la Roma et Naples, mais pour moi, il y a encore trop de manque dans cette équipe. Tu prends Dybala, Wijnaldum, c'est très bien. Si tu juges sur le CV, c'est très bien. Dybala, je rappelle que c'est à peine 40% de matchs, 40% de minutes jouées sur le total de minutes jouées par la Juve sur les deux dernières saisons.
Comme on disait tout à l'heure, les mercato, point d'interrogation.
C'est ça. Et puis Wijnaldum.
Wijnaldum, si c'est pas un point d'interrogation, il faut m'expliquer ce que c'est, là.
Voilà, le Wijnaldum dans l'organisation de club, c'était génial. En dehors de l'organisation de club, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça a déclenché une vague d'enthousiasme qui est incroyable à Rome, évidemment. Dès qu'il y a des bons joueurs qui arrivent.
Évidemment démesuré, hein, à Rome, tout l'est.
Et, la passion te fout bien un peu, t'as raison. Mais c'est clair que... moi, je pense que c'est trop juste. Et puis, il faudra voir aussi comment Mourinho va faire évoluer cette équipe-là, parce qu'ils ont beaucoup recruté sur le secteur offensif. Ils ont quand même, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, Pellegrini, Wijnaldum, Dybala, Zaniolo, Abraham Et il y aura peut-être Belotti, le Gallo Belotti, qui va arriver dans quelques jours, hein, s'il y a une sortie d'un attaquant actuel de la Roma vers un transfert sortant, entre guillemets. Ça fait quand même beaucoup de monde dans le secteur offensif. Moi, je me souviens que l'année dernière, la Roma avait commencé avec beaucoup de jeux, beaucoup de buts, 3 contre Florence, 4 contre la Salernitana, beaucoup d'enthousiasme, et puis ça s'était dégradé après la claque à Bodø/Glimt en Conference League en phase de groupe, jusqu'à devenir un jeu vraiment très stéréotypé, parfois ennuyeux, etc. Je me souviens le match retour contre la Salernitana l'année dernière, qui était dernière du classement, où ils sont à deux doigts de ne pas gagner. En plus, ils font une prestation très, très compliquée. Donc là, la première journée, et lors du dernier match de pré-saison contre le Shakhtar, il avait mis Pellegrini dans le milieu à deux en le faisant reculer, alors qu'il jouait 10 la saison passée, avec Zaniolo, Dybala plus Abraham. Alors, contre le Shakhtar,
qui est de très bons joueurs, hein, le secteur offensif, il est pourvu. Hein,
je trouve,
il y a,
ah oui, c'est pour ça. Mais c'est pour ça, Daniel. Est-ce que là, j'ai envie de dire, c'est presque facile de jouer la Salernitana et le Shakhtar en pré-saison en alignant tous tes atouts offensifs, parce que c'est des équipes. Le Shakhtar en plus qui a été démantelé et qui a plus beaucoup de joueurs de grande qualité. C'est facile, ils laissent beaucoup d'espace dans le dos, entre les lignes, etc. Donc ils ont pu se régaler, les Dybala, Zaniolo, Abraham. Si vous regardez le but de Pellegrini contre le Shakhtar, où ça joue au sol en une touche de balle entre Pellegrini, Zaniolo, Dybala, Abraham, pour Pellegrini qui marque du gauche, c'est génial. Mais est-ce que t'es capable de faire ça contre la Juve, l'Inter, le Milan, le Napoli, la Lazio, la Fiorentina?
C'est ce qu'on attend cette année, quoi.
Voilà, exactement. Donc j'ai du mal à croire qu'il fera aussi offensif et aussi ambitieux dans le jeu que ce qu'on a vu là sur la première journée.
Allez, dans quelques instants, les de retour, et vous nous donnerez également les points forts, enfin les points chauds, pardon, de votre championnat ce week-end. Je sais que Polo, alors qu'on est à peine au début du championnat, est déjà à bloc sur l'Europe et le maintien, parce qu'il sait que le Bayern va déjà être champion. Donc en fait,
il suffit de les voir jouer. Déjà, tu vois, même en Europe, à l'instant T, tu vois, à part Manchester City, je vois pas trop qui c'est qui peut les arrêter, quoi.
C'est vrai. Allez, on continue le débat et l'actu des drôles de dames dans quelques instants. À tout de suite dans la suite.
RMC, 20h30,
l'After Foot, Gilbert Bribois. 23h27, les Drôles de Dames sont là, Daniel Riolo également. Évidemment, il y a la Ligue 1 qui reprend dès demain, mais aussi les championnats européens. Fred, t'as quoi ce week-end au programme ?
Ah, j'ai un très bon Atlético Villarreal, si je dis pas de bêtises. C'est samedi. Il y a des matchs intéressants. Donc attends, je vais te dire, c'est le.
Bon, vu que t'as perdu ouais. Ta feuille, on va.
Non, Atlético Villarreal, c'est ça. Je regardais l'heure. C'est dimanche. C'est pas samedi, c'est dimanche.
D'accord.
C'est la fin de
le match du week-end.
Et puis après, à la Real Sociedad Barça, qui va couturer le journée de dimanche à 22h. Parce qu'en Espagne, comme il fait encore chaud, on joue beaucoup de matchs à 22h. Donc les grosses affiches, le Real Celta Vigo Real, c'est samedi à 22h, et Real Sociedad Barça, où le Barça a souvent l'habitude de perdre des points, c'est à 22h aussi, quoi.
Pas mal ça, ça te permet d'enchaîner.
Ça éviterait de faire comme chez nous, les cooling break à 25 degrés. Nous, ici, quand il fait 25,
il y a faut pas qu'ils aillent jouer à Séville, les mecs.
Un match à 22h en France,
Séville, c'est 45 degrés.
Il fait chaud, hein. Il fait chaud tout le temps en France maintenant. Tout le temps.
Ah ouais, mais c'est...
Tout le temps, il fait chaud.
Non, après, là, c'est question.
Donc dimanche, on peut se faire Lille, PSG et après le Barça.
Bah ouais. Non, mais franchement, 22h en Espagne, l'été, c'est 20h chez nous. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, les gens sortent de la plage, ils vont bouffer et puis ils regardent le match après tranquillement. Très moi, je dois reconnaître que j'aime plutôt ces matchs très tard. Quoi.
Moi aussi, j'aime bien.
Ouais, c'est plutôt sympathique. Et pour les stades.
Pas trop un horaire pour Polo, enfin pour la Bundesliga, parce que là.
Oui, non, ça c'est.
Surtout en hiver.
Surtout en hiver, exact. Bon, alors, c'est quoi tes affiches du week-end, toi, Polo ?
Bah écoute, j'ai pas d'affiche au sens où les médias aiment parler. Moi, ce sont surtout des rencontres qui sont où les deux équipes sont très proches les unes des autres. C'est une raison bien simple, c'est que l'année dernière, rappelez-vous, il y a deux clubs, Schalke et le Werder, qui sont descendus.
Et oui.
C'est quelque chose d'anormal. Or, ces deux clubs sont remontés et, comme on dit en Allemagne, ce sont deux clubs qui ne sont pas des promus normaux, c'est-à-dire qu'ils ont déjà le niveau Bundesliga. Et quand tu vois les deux premières journées, excepté la rencontre Mayence Union Berlin, qui a été un match lamentable dans le jeu. Ça ressemblait beaucoup à Allemagne-Autriche 1982, si vous voyez ce que je veux dire. C'était ce qu'on appelle un kakospiel, un match de M, qui a été dramatique. Le niveau des équipes a été plus plus que performant. Et je te rappelle qu'année dernière, quand on avait fait les chapeaux, Gilbert, tu nous avais demandé quelle équipe vous avez plu cette saison dans le jeu, etc. Et moi, j'avais dit que j'en avais pas l'année dernière. J'étais pas content du niveau moyen de la Bundesliga. Et ben, je peux t'assurer que sur les deux premières journées, je suis super content de ce qui s'est passé. Le week-end dernier, le samedi, les matchs étaient extraordinaires entre eux, y compris Schalke et le Werder, qui égalisaient dans les arrêts de jeu pour aller chercher un point à domicile ou à l'extérieur, etc. Et donc, cette année, moi, ce week-end, moi, c'est entre Mönchengladbach et le Hertha, Dortmund qui doit jouer le Werder, Leverkusen qui doit jouer Offenheim, Leverkusen qui est dernier du classement pour l'instant, qui a raté son début de championnat, ou d'autres, comme le derby entre Stuttgart et Fribourg, qui peut placer les deux équipes dans une première partie de tableau. Moi, je pense que je vais m'éclater ce week-end, tu vois.
Eh ben écoute, on regardera les matchs nous aussi.
J'ai 8 clubs normalement qui vont se battre pour la relégation. Et ça va être fou entre Bochum, le Brême, Schalke, Cologne, l'Union de Berlin, qui est pourtant européen comme Cologne théoriquement, Augsbourg, Mayence et le Hertha Berlin. Je crois que j'ai jamais eu une telle densité européenne. Je l'avais dit l'année dernière, cette saison, si on pense à la saison 2010-2011, depuis 2010-2011, j'ai 17 des 18 clubs qui sont en Bundesliga qui ont été en Europe sur la même période depuis 2011-2022.
On ne parle pas assez de la lutte pour les relégations, mais je trouve que c'est passionnant. Enfin, les 4-5 dernières journées, quand tu as plusieurs clubs qui sont impliqués.
Si t'aimes ça, cette année en Ligue 1, tu vas être gâté. Avec les 4 descentes, ça va être le feu.
C'est fabuleux, ouais. Quoi. Franchement. Et de voir le bonheur de clubs qui se sauvent à la dernière journée, ça vaut des victoires en Ligue des Champions. Hein. Franchement, tu vois l'émotion qu'il peut y avoir quand tu étais au bord du gouffre. Franchement, moi, j'aime bien.
Moi, j'adore les barrages aussi. Cette année en Ligue 1, il y en a.
Ah, j'adore.
Moi aussi. Oui. Julien Laurence nous rejoint. Salut, Julien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Ah Julien.
Alors, tu te
sortais d'une là parce que.
Toi, t'étais attendu parce que là, il y a des dossiers. Démarrons par le dossier Casemiro.
Ah.
Je vais schématiser le truc. Casemiro, sportivement, il n'a aucun intérêt à aller à Manchester, mais par contre, il ferait le plus gros contrat de sa vie à plus de 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'il fait ?
C'est pour ça que le départ est inexorable et aura lieu avant la fin de la semaine.
Alors. On va expliquer. Le Real n'a pas du tout envie de vendre Casemiro, qui a un contrat encore jusqu'en 2025. La clause libératoire de Casemiro est comme les intouchables à 1 milliard d'euros. Mais c'est en fait une manière de dire c'est invendable. Casemiro est un joueur extrêmement apprécié au sein du vestiaire et au sein du club, extrêmement apprécié sportivement et humainement par Carlo Ancelotti, l'entraîneur. Et il se trouve que il y avait Casemiro allait rester. Sauf que comme l'explique si bien Gilbert, et Julien va nous confirmer les chiffres, Manchester United vient avec 60 millions, 70 millions, 80 millions, le Real en veut 80 millions, et surtout, a dit à Casemiro, on te double ton salaire.
Mais c'est énorme, c'est-à-dire le Real ne peut pas refuser.
Mais c'est surtout Casemiro,
c'est tombe du ciel.
Casemiro va gagner 15 millions d'euros. C'est-à-dire qu'un contrat de 5 ans, alors qu'il a 30 ans, contrat de 5 ans, tu multiplies 5 x 15, ça fait 70. C'est ça, hein ? J'ai pas de bêtises, hein ?
75.
75, merci. 75 millions d'euros.
Donc, t'as 15 x 10, tu sais pas faire 15 x 10,
non, moi, c'est compliqué pour moi, enfin, tu vois, je suis littéraire.
15 x 6, pardon.
C'est 75 millions d'euros. En sachant qu'au Real Madrid, une fois qu'il aurait terminé son contrat, puisqu'il a plus que 30 ans, il n'aurait pu renouveler son contrat que d'année en année. Non, mais quoi qu'il arrive, c'est un coût énorme pour lui.
C'est une affaire en or pour tout
le monde. Je pense pas pour Manchester United, autre chose. Oui. Mais je pense que c'est une affaire énorme pour le Real Madrid. Le Real Madrid ne veut pas le vendre. Mais considérant que Casemiro est un type qui a toujours été impeccable, notamment pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, quand le Real demande aux joueurs de baisser le salaire, il y a une petite fronde, il y en a certains qui ne sont pas d'accord. Casemiro prend la parole dans le vestiaire en disant « Écoutez les mecs, ce club a toujours été nickel avec nous. On n'a jamais eu un jour de retard dans le paiement des salaires. Il y a une situation particulière, il faut qu'on fasse un effort. » Et ça, ça a été très apprécié par Florentino Pérez. Raison pour laquelle, si Casemiro dit au Real Madrid « J'ai le contrat de ma vie, est-ce que je peux partir ?» Eh ben, il partira. Et bah alors ils vont pas laisser partir à 20 millions, mais s'il y a 70 millions sur la table,
mais Fred,
j'aimerais que Julien donne
ça. C'est également
version.
Une super affaire pour le Real parce que c'est un gros transfert et un gros salaire en moins, et c'est le moment aussi pour le Real de tourner une page après une période absolument glorieuse du trio magique au milieu et de lancer
Tchouaméni
définitivement deux joueurs qu'ils ont recrutés et qui vont avoir maintenant du temps de jeu, Tchouaméni ou Kamavinga.
Mais alors à ce poste-là spécifique, parce qu'on a vu que Kamavinga avait plus de problèmes devant la défense. Kamavinga est plus le remplacement de Kroos,
absolument.
Plus box to box, enfin tu vois, avec une plus grande projection.
Ce sera pour Tchouaméni.
C'est pour Tchouaméni. Et voilà, donc
le terrain déblayé.
Mais après ils vont recruter quand même. Ils vont devoir recruter quelqu'un. Mais
pour le Real,
mais c'est surtout pour Casemiro. Et sincèrement, parce que je vais passer la parole à l'ami Julien. Le Real ne veut pas vendre. Mais le Real ne va pas retenir Casemiro parce qu'il considère que Casemiro a été... Alors, j'ai regardé combien avait coûté Casemiro. Casemiro avait coûté 6 millions d'euros.
Mais c'est une affaire pour le Real. Ne dis pas que c'était une bonne affaire pour le Real.
Il l'avait prêté à Porto. Porto avait payé 1,2 million pour le prêt. Donc, ça fait 4 millions 8. C'est-à-dire que Casemiro a coûté au Real 4 millions 800 000 euros.
En plus, le salaire, quand même.
Oui, non, mais je veux dire, en plus au niveau de l'achat. Alors depuis qu'il est là, ça a été largement amorti. Mais en plus, il risque de faire, d'avoir une vente à 70 millions. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il fait partie de cette histoire. Mais attention, on va quand même garder un petit pourcentage de non faisabilité de ce transfert pour une raison très simple, c'est que c'est un type qui est extrêmement attaché au Real Madrid et qu'il se peut qu'à la dernière minute, il se dise mais non, je préfère terminer ma carrière au Real.
Julien.
Alors Marca annonce ce soir là qu'il passera sa visite médicale demain. Du côté du United, on nous dit pas ça. On nous dit en revanche qu'ils sont très optimistes sur le fait qu'ils vont réussir à boucler ce transfert là. On parlera du terrain après et je comprends pas pourquoi aujourd'hui Erik ten Hag par exemple valide ce transfert. Pour moi c'est incompréhensible. Ten Hag, il a besoin d'un numéro 6 comme un Busquets de la grande époque, un Rodri, un Brozovic,
un joueur qui veut dire.
Non mais un joueur qui organise le jeu, qui c'est tout ce qu'il veut lui, c'est de la progression avec ballon. Casemiro, il est très fort sans ballon, c'est un des joueurs les plus intelligents pour casser les attaques adverses, il est très bon. Mais avec le ballon, c'est pas ça, c'est pas du tout ce que Ten Hag veut. Donc j'ai un peu de mal à comprendre la logique derrière. Mais bref, quand on t'offre un contrat pareil à cet âge-là,
on va dire qu'il aurait préféré Frankie de Jong.
Largement, mais après peut-être que finalement le plus important c'est pas Casemiro, c'est le joueur qui va venir à côté de Casemiro, qui jouera à côté de Casemiro, que ce soit dans un double pivot ou dans un milieu à trois, peu importe, mais que ce soit un Eriksen peut-être, tu peux le tenter, ou alors qu'ils vont aller chercher peut-être un Frankie de Jong ou un autre joueur qui lui sera plus capable justement à faire progresser le ballon, parce qu'encore une fois Casemiro c'est pas ce joueur-là du tout, mais c'est peut-être ça le plus important finalement. Mais après quand on t'offre un contrat pareil, tu t'en fous qui pleuvent tout le temps, tu t'en fous qu'il n'y ait pas la Ligue des Champions, tu t'en fous tout finalement hein. Là tu mets ta famille et les cinq prochaines générations de Casemiro à l'abri quoi.
Un contrat de 5 ans comme ça,
c'est incroyable.
Mais bien sûr, mais en plus, Ligue des Champions, émotion, il en a 4 lui hein. Tu vois, donc ça va.
Oui, mais excuse-moi, mais un joueur comme Casemiro, il doit jouer à la Ligue des Champions. Il peut pas aller jouer en Estonie, en Europa League. Hein.
Oui, voilà.
Mais d'accord, mais quand même.
Lui, ce qu'il attend maintenant, c'est la Coupe du Monde. Il fait partie de ces joueurs qui attendent la Coupe du Monde. Voilà, il a tellement gagné dans sa vie. Manchester, ça va être le dernier de ses soucis.
C'est ça.
Là, il y a la Coupe du Monde en novembre. C'est pour lui, quoi.
Mais après,
le Brésil.
J'insiste, vraiment, tout le monde l'annonce. Et moi, je sais qu'au Real Madrid, ils vont pas le retenir. Mais Casemiro est vraiment attaché au Real. Il faut vraiment mettre beaucoup.
Voilà pour lequel Casemiro.
Attends, je veux terminer un truc sur Casemiro.
Encore ?
Un petit truc. Sur le truc sportif. Moi non plus, Julien, je suis pas sûr que ce soit une super recrue pour Manchester United. Parce que moi, je pense qu'il va y avoir une espèce de décompression. T'as vu Varane, t'as vu le cas. Je pense que les mecs, après avoir passé toutes ces années avec l'exigence du Real, là, il y va pas pour le projet sportif, il va pour les thunes. Et j'ai quand même l'impression, même si c'est un très grand professionnel, que son niveau va baisser, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais il est plus, tu vois, il a plus rien à prouver.
Dossier suivant. Polo.
Oui.
Est-ce que Dortmund se penche vraiment sur Cristiano Ronaldo?
Mais je vois pas pourquoi Dortmund se pencherait sur Ronaldo.
Mais c'est quoi cette rumeur?
Je pense que c'est l'agent de Cristiano Ronaldo qui se penche sur le Borussia Dortmund. Ça n'a rien à voir. Mais quand l'idée est arrivée, je dis, mais c'est peut-être pas con. Et je le dis d'autant plus que j'ai beaucoup critiqué les dernières années de Ronaldo, aussi bien à la Juve qu'en équipe du Portugal, qui a évidemment la dernière saison à Manchester United. Et tu te poses la question, à part le marketing, qu'est-ce que ça peut faire de bien au Borussia Dortmund? T'as perdu le Norvégien Hollande, tu récupères Ronaldo ok, ça fait le buzz, etc. Comme le Bayern a perdu Lewandowski, ils ont récupéré Mané. Ok, très bien. Mais dans le jeu, ça t'apporte quoi quand ton effectif est déjà opérationnel au Borussia Dortmund? Lorsque ton effectif, en plus, cherche un attaquant de plus d'un mètre 90. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher Sébastien Allaire. Allaire, il a malheureusement ses problèmes de santé. Donc on est allé chercher Modeste, qui évidemment n'est pas du niveau de Ronaldo, mais c'est un profil pareil, attaquant plus d'un mètre 90. Tu le mets où, Ronaldo? J'ai 5 attaquants aujourd'hui au Borussia Dortmund. J'ai des jeunes, notamment Moukoko, qu'il faut lui donner du temps de jeu pour qu'il, rappelons-le, qu'il a 17 ans et qu'on doit faire progresser. J'ai la révélation depuis ce début de saison, le jeune Binoel Gittens, 18 ans, anglais, qui t'a mis un but extraordinaire, qui a lui tout seul peut changer le résultat d'une rencontre en 10-15 minutes, à faire progresser. Et on te dit Ronaldo dans l'équipe, il arrive. Ok, je comprends pas. La troisième, donc ça c'est compliqué. Et puis la troisième chose, parlons simple. Même si le Borussia Dortmund a dépensé près de 100 millions d'euros cet été pour des nouvelles recrues, dont Sébastien Allaire évidemment, Nico Schlotterbeck et Karim Adeyemi, que j'ai oublié, qui joue plutôt du côté droit en ce moment. Le salaire de Ronaldo, c'est pas gratos, donc il faudrait qu'il fasse des efforts énormes. Mais surtout, je vois pas où tu veux le mettre dans le projet aujourd'hui. C'est-à-dire que à la rigueur, on pourrait le mettre ailier gauche dans un ancien Ronaldo version. Mais c'est fini, il fait plus ça depuis des années, il a pas envie de le faire.
Il peut plus.
Oui, mais il peut plus, c'est ça. C'est fini à ce niveau-là. Ils sont tous. C'est un peu le même problème qu'on a avec Sadio Mané au Bayern Munich. Hein, savoir est-ce qu'on le met sur le côté droit ou en faux neuf, etc. Et donc voilà, j'arrive pas à comprendre le truc. Maintenant, si tu raisonnes en question business, qui va amener des sponsors, si la marque Ronaldo va rejaillir sur la boulie, sur tout ce que tu veux, ok. Mais moi, si genre le truc, si tu veux, moi ça me dépasse complètement. Donc je vois pas l'intérêt. Mais c'est surtout de mon point de vue. Mais l'idée est pas bête, honnêtement. Quand tu dis j'ai gagné en Espagne, j'ai gagné en Italie, j'ai gagné en Première Ligue, pourquoi pas aller gagner en Allemagne? L'idée est pas bête. Hein, en se disant tiens, si c'est moi qui pouvais enlever un titre au Bayern Munich, pourquoi pas? Bon, je suis pas sûr qu'avec le niveau actuel du Bayern, tu vas leur faire beaucoup bouger l'oreille. Mais ça, c'est un autre débat. Mais la question, elle est là. Mais quelle est l'utilité d'un Cristiano Ronaldo à partir du moment où il n'est pas intégré au départ dans un projet sportif sur 2 ou 3 ans par exemple, et encore on a vu les résultats en ce moment, moi j'arrive pas bien à comprendre quoi.
Mais Ronaldo c'est pas un projet sportif, c'est un projet personnel de statistiques.
Ben oui.
Julien, toi tu dis quoi sur cette histoire de Dortmund là?
Oh, moi je crois pas une seule seconde. Mais vraiment, pour moi, ça colle pas du tout. Ça colle pas non plus avec la mentalité du club. Ça colle pas avec la philosophie du club non plus. Enfin, je vois pas. Après. Je vois même pas Edin Terzic aujourd'hui dire mais oui bien sûr c'est une idée géniale d'aller chercher Cristiano Ronaldo, regardez tout ce qu'il va nous faire, mais il court plus. Je sais pas si je vous ai dit la dernière fois, mais la saison dernière j'ai regardé donc toutes les phases de pression sans ballon donc des attaquants des 5 grands championnats. Il est dernier. Et même l'attaquant à 3, il fait plus de pressing que Cristiano Ronaldo. Même le mec à Retafe, il fait plus, mais c'est avant d'arriver à un point. Ok, Retafe, c'est normal, c'est un mauvais exemple. Mais tu vois, c'est à un moment, c'est je sais pas, c'est plus possible. Ou alors il faut jouer dans un système avec 2 points.
Et c'est pour ça que personne ne le prend.
Bien sûr.
Il n'y a qu'un club qui a besoin d'une vitrine ou qui a besoin de faire parler de lui qui pourra être intéressé. Mais un club qui veut réussir sportivement ne peut plus faire appel à lui.
La grosse connerie de Cristiano Ronaldo, c'est de devoir quitter le Real, c'est tout. Voilà,
mais Real, il jouerait plus, ce serait un handicap aujourd'hui.
Ouais, mais pour le Real, c'est parfait. Bah, la preuve,
au bout d'un moment,
depuis, il
serait parti à un moment ou à un autre.
Donc, mais pour lui. Aujourd'hui, pour réussir sa sortie, bah, c'est soit.
C'est sporting. Le sporting, c'est la meilleure solution.
Ouais.
Non, mais arrêtez avec ça, parce que ce que vous dites, je comprends pourquoi vous dites ça, mais comme on en parlait l'autre soir avec Nico Villas, c'est un petit peu. Je trouve dégradant pour le Sporting de dire ça, parce que d'abord le Sporting c'est un club qui a de l'ambition, avec un entraîneur qui est extrêmement ambitieux pour faire bien jouer son équipe et qui a lui envie de progresser, de devenir une vedette, Amorim. Il a pas envie d'avoir Ronaldo comme un boulet qui sera pas dans ses consignes de jeu et dans son jeu. Non, sa sortie c'est l'Inter Miami, c'est les Galaxies, c'est un truc comme ça aujourd'hui. C'est d'admettre que il faut y aller. Mais sauf que comme il y a la Coupe du Monde là et qu'il a envie comme Messi de briller pour sa dernière. Bah, il lui faut quand même un environnement un peu sérieux pour être bon à ce moment-là.
Mais moi, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Hein,
on l'aime tous bien.
Mais pour son image, c'est enfin, on en a parlé lundi, mais moi, j'arrive pas à imaginer parce que là, aujourd'hui, Mr Chip qui est Monsieur Statistique en Espagne, Mr Chip, Alexis, et qui est un chroniqueur important. Il est pro Atlético, il est très proche du dirigeant d'Atlético.
Comme une chips.
Chip, tu sais, comme un chip d'ordinateur, un truc qu'on met dans ta tête, là, tu sais, parfois, on a un chip.
Comme Van Chip, voilà. Un joueur néerlandais.
Et bah, lui, il est proche des dirigeants de l'Atlético, et lui pense que c'est encore possible qu'il aille à l'Atlético, et que l'Atlético chercherait une sortie à Griezmann. Enfin, il faudrait que le Barça.
Comment Simeone intègre Ronaldo dans son équipe?
Ouais, mais c'est pour ça, ça me paraît très compliqué, mais je comprends pas. Je pense qu'il y a un désir de. Le problème, c'est qu'il faut séparer Griezmann, qui est, je vous rappelle, prêté par le Barça, parce qu'il faut libérer du salaire.
Tout le monde en est content maintenant.
Tout ça est très compliqué. Ouais, non, mais tout ça est très compliqué. Mais t'imagines, t'es Cristiano Ronaldo, j'insiste là-dessus, tu es le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Et tu vas t'offrir à l'Atlético, qui est pour les vrais supporters le club ennemi numéro un. Enfin, je veux dire.
Surtout qu'à chaque fois qu'il a joué contre l'Atlético, il en a fait des tonnes.
Il est.
La dernière fois, avec la Juve, quand il joue contre l'Atlético, qui met son triplé là.
Ah ouais.
Waouh, ce qu'il fait là. Moi, je suis supporter de l'Atlético, je n'oublie jamais ça.
C'est en club espagnol, la meilleure victime de Cristiano Ronaldo.
L'Atlético, ça a été la cible hier de Ronaldo.
Mais oui, mais t'imagines cet état de. Je vais même employer un mot fort, de désespoir de Ronaldo, parce qu'il y a quelque chose de désespérant. Vous trouvez pas les copains ?
Il est en train de rater sa sortie, peut-être.
C'est triste, hein. Moi, je trouve ça triste.
Ah, on est d'accord. Vous trouvez que c'est désespéré ? Il est désespéré.
Oui, j'ai du mal à être triste pour Ronaldo. Excusez-moi.
Ah, mais si, moi, si. Moi, parce que moi, je l'aime bien, vraiment. Puis c'est un mec gentil, qui a beaucoup de choses. Il aurait beaucoup de choses dans la tête.
Un milliard, sans compte en banque.
Oui.
C'est bien.
Ouais. Mais ça lui suffit pas. Hein. Lui, c'est pas important pour lui. Enfin, c'est important, mais c'est pas l'essentiel. Mais comment un type aussi bien entouré peut faire de telles erreurs stratégiques pour son image? C'est ça qui est fou.
Johan, un truc à dire sur Cristiano? Tu peux, hein, si tu veux. Hein. C'est pas, même si
c'est pas du tout. Je te le renvoie si tu veux. Trouve-moi un club, je te l'envoie là.
C'est pas la peine, merci bien. Ou alors à la Salernitana, ou je sais pas, dans des clubs comme ça, où il peut faire beaucoup de bien pour un promu. Mais...
Ribéry alors.
Bah, Ribéry est toujours là, il va jouer, à mon avis, pas très souvent titulaire.
Parce que d'ailleurs, mais... en voilà encore un autre qui a du mal à arrêter, tiens.
Après, c'est pas vraiment le même délire. Lui, c'est plus des questions statistiques.
Il a choisi un petit club, il est dans un
club
sympa, il bouffe bien, il y a du soleil, il est peinard.
Ouais, on comprend Ribéry en fait, quoi, tu vois.
Comprends totalement aussi Franck Ribéry. Et c'est vrai que Ronaldo, je suis d'accord avec ce qu'ont dit tous les copains. C'est alors triste, je sais pas, mais c'est dommage en fait d'avoir un champion qui est en train de passer à côté sur ces derniers mois. Pas tant sur le terrain, mais plus en coulisses, c'est-à-dire l'attitude, son histoire, voilà, de je reviens avec mon agent, je veux partir, j'ai pas envie de jouer, je parle à mi-temps du match, ça va, quoi. Au bout d'un moment, c'est pas le cercle non plus, donc je trouve qu'il est en train de vraiment de ternir sa fin de carrière à ce niveau-là.
Et puis d'ailleurs, il faudra que Julien nous explique comment Manchester s'est pris une douille par l'Ajax avec une offre à 80 millions là. Ça c'est encore une autre histoire. C'est dans quelques instants. Dans l'after, il nous reste un petit quart d'heure avec les drôles de dames.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Les drôles de dames et Daniel Riolo jusqu'à minuit sont là. Oui, Julien, je reviens vers toi parce que donc c'est sur RMC Sport là. Manchester United. Donc est prêt à signer vraiment des chèques énormes puisque ils ont fait une offre de 80 millions pour Anthony, attaquant brésilien de l'Ajax. Et l'Ajax a refusé.
Ouais, ils ont refusé ce soir. Alors ça fait longtemps qu'il tourne autour d'Anthony. Hein. Ten Hag aimerait beaucoup retravailler avec lui, l'amener avec lui à Manchester. Il cherche ce profil-là aussi. Et il y avait une première offre qui avait, en tout cas, une première approche qui avait été faite au mois de juillet. Et je crois que Manchester avait compris à l'époque que ce serait très compliqué de faire venir Anthony. Le problème, c'est que c'est tellement le bordel maintenant à Manchester United qu'ils sont tellement, encore une fois, désespérés et qu'il leur reste que 12 jours.
Il leur reste que empiler les joueurs en essayant de sortir quelque chose.
Donc là, maintenant, t'es dans la, tu surpayes forcément, mais tu te ridiculises, hein. C'est catastrophique, mais c'est pas grave. Tu fais tout ce que tu peux, donc tu surpayes pour Casemiro, bien sûr, sinon il viendrait pas. Tu surpayes ou t'essayes de surpayer pour un Anthony, pour convaincre un club comme l'Ajax. Tu vas peut-être aller chercher, ou en tout cas tenter un Malo Gusto, par exemple, parce que, bah, tu te dis, ça sert à rien d'aller chercher aussi des joueurs de 30 ans, il faut aussi un petit peu des jeunes comme Anthony. Lyon a dit non, mais après, c'est pareil, ça dépend ce que tu mets sur la table. Si tu mets 50 millions, ben voilà, exactement.
Mais à un moment, si tu m'en donnes beaucoup, je vais dire oui, je m'en fous.
Elle a combien,
exactement.
Je sais pas, moi, si tu m'en donnes 30 000, je la vends tout de suite.
Je sais plus.
Quoi. Sauf qu'aujourd'hui,
oui,
l'Ajax, depuis 2019, je sais plus où j'ai lu ça, a vendu pour plus d'un demi-milliard d'euros de joueurs.
Bah, l'Ajax refusait 80 millions.
L'Ajax, ils vont pas refuser 80 bars.
Bah apparemment là, ou alors
ils ont fini ce soir. Ouais.
Ou alors c'est confirmé.
Ils font la Ligue au début, tu fais la Ligue.
Ouais, ou alors ils font ça pour avoir 90. Bon. Je sais pas.
Fred, il a
attention,
souvent
fait ça, pas ce soir. Bon, allez, Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, ça dépassait les 80 millions d'euros. Hein, donc l'Ajax, ça, ils savent très bien vendre. Et De Telegraaf ce soir, le quotidien néerlandais principal, confirme que l'Ajax a bien refusé 80 millions d'euros pour Anthony. Et moi, ça ne me surprend absolument pas. L'Ajax, ils ne sont pas débiles non plus. Hein, à 10 jours de la fin du mercato, il faut le remplacer, c'est ça, Anthony. C'est un profil bien vraiment sûr, très particulier.
Oui, c'est, exactement, c'est ça, surtout.
Quand j'ai vu les sommes, je croyais que c'était Carmelo Anthony, de la NBA.
J'ai une question à poser à, gauche, c'est moi, à Julien.
C'est vrai que c'est pas Anthony Mounier. Hein.
J'ai une question à poser à Julien.
Oui.
Et Varane, qu'est-ce, parce qu'en Espagne, on parle beaucoup du cas Varane en disant Casemiro, est-ce qu'il va s'enterrer comme Varane? Parce qu'on est dans la même logique, en fait. Hein. Mmh. Varane, il voulait connaître un autre championnat, puis il était beaucoup mieux payé à Manchester United. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Varane à 2 mois et demi de la Coupe du Monde?
Non, je pense qu'il sera titulaire là lundi contre Liverpool à la place de Maguire. Il a connu une première saison un peu compliquée parce que il découvrait un petit peu tout ça, la première ligue, un club aux abois, faut le reconnaître quand même. C'était vraiment compliqué. Il a eu des blessures aussi. Il a quand même connu deux entraîneurs. Enfin, là, ça fait 3 entraîneurs en l'espace d'un an quasiment quoi. Pour lui aussi, donc c'est pas facile. Surtout qu'en plus Rangnick et Solskjaer avaient rien en commun du tout. Et Ten Hag. Bah, pas grand chose non plus, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à ce niveau-là, mais je pense qu'il va avoir sa chance là maintenant, et que s'il l'a saisi, on devrait voir un bien meilleur Raphaël Varane qu'on a vu en première saison, parce que maintenant il s'est adapté, la famille aussi, tout ça. Avec Ten Hag, il y a enfin une structure qui lui conviendra autour de lui, parce qu'avant c'était quand même le bordel, il faut reconnaître, et dans le bordel, Rafa, c'est pas trop son truc. Quoi.
Ah non, j'avoue après, que c'est un beau
il a halluciné hein, par rapport à ce qu'il avait quitté au Real et ce qu'il a retrouvé à Manchester, il s'attendait pas du tout que ce soit aussi compliqué.
Ouais. Mais bon, on n'est pas trop inquiet alors quand même.
Fred. Non, je pense pas, et on devrait pas l'être.
Bon, il nous reste 10 jours de régalade avec Manchester United.
Ah bah oui.
Ça, on va bien rigoler.
Voilà, je pense qu'il.
Non, parce que s'ils arrivent à faire barreau Icardi.
Un club pour rire. C'est terrible. Hein.
C'est fou quand tu vois ce que ça a été. T'imagines, Ferguson, qu'est-ce qu'il pense de ça T'imagines?
Il donne jamais d'interview, c'est fini, Ferguson, il parle plus, tout ça.
Non, on l'a vu aux Rangers, il était au match des Rangers contre le PSV. Mais par exemple, juste pour vous résumer très rapidement, hier, la grande blague qui circulait en Angleterre, qui était complètement virale, c'était que Casemiro était allé être absent des terrains pendant 4 mois parce qu'il s'est fracturé les côtes à force de rigoler sur la rumeur de transfert qu'il envoyait à Manchester United. Donc, voilà, c'est pour vous dire à quel point tout le monde se moque, tout le monde les troll, quoi, c'est incroyable.
Et dis-moi, je sais, il y en a un qui parle beaucoup parce qu'il est dans les médias, c'est Gary Neville, qui a pas été tendre avec Ronaldo, mais d'autres grands anciens, bon, il y en a quelques-uns qui sont empêtrés dans des affaires un peu sordides, mais d'autres vedettes du passé, là, ça parle pas un peu, ça.
Ça parle plus sur les Glazers, quand même, Daniel, plus sur la vente du club. On a vu Jim Radcliffe, ça sent pas très bon pour Nice non plus, hein, s'il commençait à vouloir s'attaquer à Manchester United, mais bon, ça, il y a encore le temps. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup plus des Glazers, du fait qu'ils maintenant ils doivent passer la main, vendre le club peut-être, ou en tout cas.
Mais vendre que des petits bouts pour l'instant, c'est ça, c'est mignon.
Là, ils vont vendre un petit bout, ouais. Ils vont vendre une part
minoritaire. Il y a une autre blague que j'ai eue, qui était pas mal, c'est donc Elon Musk qui a fait son malin en disant je vais racheter Manchester, c'est une blague. Et puis il y a les gars qui lui ont répondu, mais par contre, si tu veux envoyer Cristiano sur Mars, tu peux y aller.
Allez, pour enrouler, c'est quand même. Voilà, c'est.
Juste, il nous reste 4 minutes là. Bernardo Silva ou Aubameyang?
Alors, ça, on va reparler avec Julien. Aubameyang, a priori, avec Chelsea, ça va se faire. Hein, ouais, qu'est-ce que t'en penses, Julien?
En tout cas. Ouais, c'est bien parti en tout cas. Ouais, ça a l'air bien parti en tout cas. Ouais.
Bon, l'expérience de Aubameyang au Barça aurait été. Il est content, il a vu du pays, quoi. Mais voilà, après, il repart d'Angleterre. Sur Bernardo Silva, ça c'est.
Il a retrouvé Tourelle.
Ah. Ouais.
Il avait... Attends. Ça s'était pas bien terminé quand même. Hein. Rappelez-vous, c'est mieux maintenant. Ils sont redevenus copains. Mais il est quand même poussé dehors, il veut partir. Rappelle-toi, Apollo, il fait le forcing pour partir parce qu'il s'est complètement embrouillé. Rappelle-toi l'escapade à Milan en jet privé. C'était pas du tout bien passé chez Tourelle et c'est vrai que ça avait été très très chaud entre les deux.
Ouais, mais dans ces cas-là, après, tu dis que c'était à cause des dirigeants et puis ça passe.
Ouais, après. Puis le Barça, ça libère de la masse salariale, hein, c'est toujours ça. Et Bernardo Silva, c'était très chaud il y a 2 jours, ça s'est refroidi un peu, là.
Ouais, je pense aussi qu'il va rester. Ouais. Je
pour le Barça,
je pense
que
par rapport il va rester contraint parce qu'il voulait se barrer.
Ouais, alors c'était pas très très clair. Je pense qu'il voulait partir. Je pense que il a très mal vécu. On en avait déjà parlé, mais le fait que le club ait tenté de le vendre assez fortement la saison dernière, il y a un an, et qu'après il a fait une saison fantastique et qu'aujourd'hui il est indispensable à cette équipe. Mais après, il lui reste encore 3 ans de contrat. Donc forcément, City était aussi dans une position très favorable. Et à partir du moment où le Barça n'était pas capable de payer les 80 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent quand même pour Bernardo. Hein, mais je pense que Bernardo a compris qu'il fallait rester encore au moins un an. Et à mon avis, l'été prochain, ils ouvriront la porte.
Bon, en tout cas, la fin de Mercato.
Tu crois pas qu'au tout dernier moment, là, les amis portugais peuvent tenter le coup pour le PSG?
Ah si, c'est possible, ça m'étonnerait pas. D'ailleurs, hier, dans le Times, un journaliste assez respecté disait
mais
que...
Je sais pas, mais avant la fin avant le 31 août, j'ai l'impression qu'il peut se passer un truc.
Ah, moi, je dis toujours, hein, tonton Georges avec Antero et voilà. Louis...
c'est quand même eux qui ont mis la main sur le PSG, hein. Maintenant, on oublie de le dire, exactement. Mais...
Donc ça m'étonnerait pas.
Parce que le PSG, ils ont besoin de quoi, là? Sportivement parlant, j'ai l'air.
Bah Bernardo Silva, je dis pas non, moi.
Ouais,
au PSG, je dis pas non. Tu le fais jouer où, là?
Vu la fiabilité des trois de devant, enfin surtout des deux de devant, les deux stars.
Donc tu sors lequel?
Et la façon dont on est sûr que sur un an, ils tiennent pas forcément, vaut mieux avoir Bernardo Silva, je le mets titulaire direct.
Il joue partout. Tu peux le mettre en milieu défensif. Il joue à côté de Rodri depuis presque une saison maintenant. Quasiment en numéro 6, quoi. Il est en 6-8, mais il est capable de tout faire sur un terrain. Il peut jouer 10, il peut jouer excentré, il peut jouer derrière l'attaquant, il peut jouer en faux numéro 9. Il peut tout faire, quoi. Vraiment, c'est un joueur extraordinaire. Donc, si tu peux te le permettre, surtout fonce, ouais.
Ah, évidemment.
Vous me vendez une fan d'Arcato de rêve, là. Donc là, il reste 15 jours. Ouais. Manchester, les Qataris qui peuvent s'énerver.
Il y a toujours des trucs en fin de mercato. Ouais.
Alors, moi, je suis un peu étonné quand même parce que.
Un joueur qui va partir pour 50 millions en première ligue.
J'étais persuadé qu'avec un mondial au mois de novembre, que les mecs n'auraient pas voulu, les gros internationaux n'auraient pas eu forcément envie de bouger. Tu vois, changer de club, changer de pays.
Si tu sais que tu vas jouer. Coupe du Monde, elle va être tellement particulière en plein milieu de la saison, sans préparation.
Ouais. Mais moi, je pense, tu vois, tu étais quand même plus confortable dans un club.
En plus, si tu me permets, mais j'ai toujours dit que c'était une fausse idée de croire que le destin ou ce que tu allais faire en équipe nationale influait sur ce que pensaient les joueurs de leur vie au quotidien. Le plus important pour eux, c'est le quotidien, leur contrat club. L'équipe nationale, ça, savoir s'ils vont performer et tout, ça passe après. C'est une histoire qui est tellement à part. En plus, l'histoire des Coupes du Monde ou des Euros montre que entre les prépas, ce que tu attendais au départ, à l'arrivée, ne se passe pas exactement comme ça. Ce qui préoccupe les joueurs, c'est leur contrat, leur vie au quotidien, leur vie dans un club. Savoir si je vais pas bouger parce que comme ça, je suis tranquille pour préparer aux Coupes du Monde. Je crois pas, mais pas une seconde.
C'est fini, merci Audrey de Dame, merci les gars, bon week-end. Lundi vous serez là à 20h bien sûr. Nous on revient demain avec l'After et le retour de la Ligue 1. Voilà, puis n'oubliez pas que la nouvelle revue de l'After sort le 25 août. Elle est déjà disponible sur afterfoot.media si ça vous intéresse de vous abonner. À demain 20h, bonne nuit à tous.
L'After Foot, 20h minuit sur AMC.